Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le Media Lab de Sciences Po et son engagement pour le logiciel libre, marqué notamment par sa récente adhésion à l'April. Merci à elle et eux de cette confiance d'ailleurs. Nous allons pour cela échanger pendant un peu moins d'une heure avec nos deux invités, Béatrice Mazoyer et Benjamin Octabanou, deux ingénieurs de recherche du Media Lab de Sciences Po et qu'on a le plaisir d'avoir avec nous en studio. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre conversation au 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Donc bonjour Béatrice, bonjour Benjamin. Comme il est bon de savoir qui parle et d'où il ou elle parle, je vous propose de ne pas déroger à la question traditionnelle. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Béatrice ?
Bonjour. Donc je suis Béatrice, je travaille depuis 2 ans maintenant en tant qu'ingénieure de recherche au Media Lab de Sciences Po. Et donc mon travail consiste principalement à accompagner des chercheuses et des chercheurs en sciences sociales dans leurs activités, notamment par le développement d'outils logiciels. J'ai auparavant fait une thèse en informatique et je pense que c'est à ce moment-là que s'est développé mon intérêt pour le logiciel libre d'une façon très concrète. C'est qu'en fait, en informatique, quand on fait de la recherche, on passe beaucoup de temps à lire des articles d'autres chercheurs où ils décrivent leur code. Et en fait, et de façon assez paradoxale, très souvent, ils décrivent leur code, mais ils le publient assez peu souvent. Et c'est vrai que c'est en partant de ce constat que je me suis, moi, attachée à de plus en plus publier mon code et le rendre aussi accessible que possible.
Super, Benjamin.
Oui, bonjour, moi je suis Benjamin. Donc, moi j'ai une formation d'ingénieur généraliste que j'ai d'abord développée dans l'astrophysique avant de basculer à Sciences Po, ce qui est donc un peu atypique. Mais historiquement, je faisais toujours, depuis tout petit, j'ai toujours fait un peu de l'informatique, même si je me refusais à en faire un métier. J'ai pas du tout réussi. Du coup, j'ai été de près ou de loin à côté du logiciel libre pendant longtemps, mais je pense que c'est vraiment au moment de divers engagements militants, quand j'ai rencontré Jeremy Zimmerman notamment, et sur divers combats au cours de l'accès à la culture, pour des grandes lois avant Adopi, mais d'autres avant, que je me suis approché du logiciel libre, que j'ai progressivement basculé, abandonné mon Windows, et cherché de plus en plus dans mes activités professionnelles à pousser pour plus de logiciels libres. Et je réfléchissais en préparant l'émission à si je faisais du logiciel libre dans mes laboratoires d'astrophysique, et je suis pas sûr. Je crois qu'on faisait des choses avec tous les outils du logiciel libre, mais qu'on publiait absolument rien. Et effectivement, comme le disait Béatrice, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de code qui est fait dans la recherche en général, et souvent du code qui est peut-être pas forcément très propre et pas forcément très très relu. Et je pense que le passage au libre est vraiment quelque chose de très important, en fait, progressivement. Mais c'est plutôt rassurant que, en tout cas, l'État a l'air de se poser la question, en tout cas, concernant le monde de la recherche. C'est un sujet, en tout cas, aujourd'hui.
Ça, je pense qu'on va y revenir. On a fait une émission sur la science, ce qu'on appelle la science ouverte. Donc, pour les personnes que ça intéresse, il suffit d'aller sur libreavoue.org/130. Et je pense que dans le cours de notre échange, cette dimension de science ouverte va revenir, parce que c'est vrai que cette idée de reproductibilité, de revue par les pairs, etc., est au cœur du logiciel libre, mais semble a priori aussi au cœur d'une bonne recherche, on va dire. Donc vous êtes tous les deux ingénieurs de recherche, justement, au Media Lab de Sciences Po. Alors, pouvez-nous présenter ces structures ? C'est quoi le Media Lab de Sciences Po ? Alors, très vaste question, et on va, à travers nos échanges, mieux comprendre de quoi il s'agit, mais déjà, dans une première introduction, c'est quoi ? Benjamin, alors, puisque tu parlais.
En quelques mots, c'est le 10e laboratoire de recherche de Sciences Po. Sciences Po, alors quand on dit Sciences Po, c'est pas Sciences Po Paris. Il y a plusieurs Sciences Po en France, mais bon, bref. Mais donc, c'est le 10e labo, c'est le tout dernier, le plus jeune, qui a été créé en 2009 à l'initiative de Bruno Latour, qui nous a tristement quitté il y a une quinzaine de jours, et à qui on rend un hommage, évidemment. Quand Bruno a créé le laboratoire, c'était pas forcément comme un laboratoire, initialement. Bruno a tout d'abord constaté... Bruno était très peu au fait du numérique, globalement, mais pour autant, il était convaincu de la nécessité d'exploiter le numérique. Lui-même n'était pas forcément très à l'aise avec, mais pour autant, il pensait que c'était essentiel qu'on s'en empare et que ce soit un objet à étudier également. Et du coup, il a décidé, alors que les sciences humaines étaient encore, il y a une dizaine d'années, très dépourvues, dès qu'il s'agissait de manipuler le numérique ou d'utiliser des méthodes numériques. Il a cherché à renforcer ça, et notamment en équipant Sciences Po de cette unité, donc qui était vraiment une unité de service à la base, qui serait le Media Lab, qui serait cet endroit où des ingénieurs compétents seraient en capacité de produire soit des outils, soit de développer des projets qui puissent accompagner des travaux de recherche de toute nature, mais avant tout pour les projets de recherche menés à Sciences Po. Et c'est comme pour ça que l'un des tout premiers projets du Media Lab a été le projet AIM, An Inquiry on Modes of Existence, qui était le dernier grand livre de Bruno Latour, et qui venait en parallèle du livre avec une version numérique dans lequel on pouvait lire le livre, mais dans un ordre totalement reposant sur la sérendipité et sur le mode de l'hyperlien, en fait, où on allait pouvoir parcourir le livre dans le désordre, de thème en thème, et pouvoir rebondir, et également contribuer et ajouter des ressources qui viendraient enrichir cette enquête. Donc ça, c'est historiquement comment le Media Lab est né. Et puis, en fait, progressivement, ça a agrégé plusieurs personnes, des profils techniques, mais aussi des profils de recherche et des profils design. Le Media Lab estime très important de placer au cœur de nos travaux de recherche une approche design. On y reviendra probablement. Et donc, ces différentes personnes qui se sont agrégées ont progressivement toutes manifesté le souhait également de porter des projets de recherche. Beaucoup d'entre eux avaient déjà un profil académique. Et en fait, c'est assez naturellement que de 2009, je crois que c'est en 2014, que le laboratoire s'est officiellement déclaré comme laboratoire de recherche, a été reconnu par l'HCERES, qui est le haut commissariat à l'évaluation. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est devenu un véritable laboratoire au même titre que les plus connus, c'est VIPOF, CERI, CE, dont on entend régulièrement des académiques parler à la radio.
On étudie les plus célèbres quand on s'intéresse à ça, mais c'est vrai qu'un laboratoire, moi je peux pas. Un laboratoire, quand dans l'esprit commun, on imagine plutôt des laboratoires de chimistes, avec des fioles. C'est quoi un laboratoire en sciences politiques, Béatrice?
Je réponds pour ce que je connais, c'est-à-dire à Sciences Po, j'imagine que ça prend des formes assez diverses. C'est surtout des gens qui ont envie de travailler ensemble. Donc, ce sont... bon, alors après, voilà, je suppose qu'il y a un prérequis qui est probablement d'avoir fait une thèse et puis d'être un chercheur académique, entre guillemets. Mais un laboratoire, avant tout, c'est une équipe. C'est des gens décidés à travailler ensemble sur des projets communs.
Ça me paraît très clair.
Et qui font de la recherche, donc qui ont vocation à essayer de creuser des questions. Alors effectivement, il y a des chimistes et des physiciens qui peuvent poser des questions, que ce soit sur les étoiles ou sur la composition de tel, je ne sais quoi. Mais en sciences humaines, il y a un certain nombre de disciplines également, et il y a un certain nombre de projets. Après, majoritairement au Media Lab, je pense que nos projets sont essentiellement de la sociologie, mais on a aussi pas mal d'histoire des sciences, un petit peu de philosophie. C'est aussi une des autres particularités du Media Lab, c'est que contrairement effectivement aux neuf autres laboratoires de Sciences Po, qui sont vraiment un laboratoire de sciences politiques, un laboratoire de sociologie, un laboratoire d'histoire, le Media Lab est un laboratoire un peu interdisciplinaire, dans lequel en fait des chercheurs qui font des choses potentiellement assez différentes se rassemblent pour essayer de travailler soit sur des sujets communs, soit avec des méthodes communes. Moi, j'aime bien résumer le Media Lab comme étant un endroit dans lequel on étudie le numérique, soit on utilise des méthodes numériques pour étudier un peu tout et n'importe quoi, et le plus souvent, en fait, on les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on va aller étudier le numérique ou l'impact du numérique sur la société tout en employant des méthodes numériques.
D'accord. Et tu disais, on se moque de Sciences Po, mais je pense que c'est intéressant de voir comment justement tout ça se structure. Donc, c'est une unité, enfin, je ne sais pas, c'est public, on est d'accord, a priori, Sciences Po. Il y a une organisation commune. Alors voilà, vous hochez la tête. Mais alors, comment fonctionne Sciences Po et comment finalement structurellement ce laboratoire dépend de l'organisation de Sciences Po? Vous êtes des chercheurs, donc directement, vous êtes employés par ce Media Lab, vous êtes employés par Sciences Po et vous travaillez pour le Media Lab. Je pense que c'est toujours intéressant de voir finalement aussi, parce qu'il y a des questions peut-être d'indépendance aussi et d'organisation qui peuvent être intéressantes.
Alors, oui, je pense que je vais te laisser répondre, Benjamin, parce que tu penses que tu as une meilleure connaissance organisationnelle que moi.
La question n'est peut-être pas facile. Hein.
Alors, Sciences Po est un statut assez particulier, et j'espère que la com de Sciences Po ne nous écoute pas, parce que je vais peut-être me faire taper sur les doigts si je ne dis pas les choses correctement. Mais Sciences Po n'est pas complètement public. Sciences Po est une école publique et une fondation de droit privé. Ce qui fait que du coup, ça a un double statut, ce qui fait que ça complexifie un petit peu un certain nombre de choses. Mais par exemple, on fait des marchés publics. Mais pour autant, Béatrice comme moi, on est des salariés de droit privé. On n'est pas des fonctionnaires et il n'y a pas de concours pour rentrer, enfin pour être salarié de Sciences Po. On est vraiment des salariés classiques. Donc c'est effectivement un peu différent de certains nombres d'autres universités et laboratoires qui sont intégralement publics. Pour autant, effectivement, on est dans un cadre qui est quand même assez proche du public. Et les académiques sont recrutés, les professeurs sont recrutés sur un modèle qui est très proche des concours des académiques de la fonction publique. Ouais, je ne sais pas si ça répond intégralement à la question.
Je pense que ça donne une meilleure vision. Et du coup, Media Lab, structurellement, ça s'inscrit. Il y a une autonomie structurelle de Media Lab. Donc, c'est Sciences Po qui est votre employeur et vous, vous travaillez à temps plein, j'imagine, au sein du Media Lab.
D'accord. Alors, c'est ça. Et il y a, comme je disais, donc, alors, nous, on n'est pas des chercheurs, à proprement parler. Béatrice pourrait candidater à un poste de chercheur puisqu'elle a une thèse. Mais on est effectivement plus sur des postes d'ingénieurs. Après, on fait de la recherche. Mais disons que le terme de chercheur est souvent associé à ce qu'on a tendance, nous, à qualifier plus poliment d'académique, mais qui sont... c'est un statut, hein, en fait, avant tout. Mais donc, au sein du Media Lab, il y a effectivement des académiques qui sont au nombre de 7 ou 8, je crois, en ce moment.
7, sur des, oui.
7, ouais. On a une petite équipe d'une petite dizaine d'ingénieurs ou... technique. Il y a entre 5 et 7 personnes dans l'équipe design. Et à tout ça s'ajoute évidemment une quinzaine de doctorants et un certain nombre de post-doctorants. Donc des doctorants, c'est des gens qui font une thèse, qui sont en cours de thèse. Et des post-doctorants, c'est des gens qui ont déjà soutenu leur thèse et qui cherchent à obtenir un poste de prof, mais qui en attendant bossent généralement sur des projets de recherche d'autres chercheurs qui sont recrutés généralement en CDD pendant quelques années.
D'accord. Béatrice, tu définissais le labo comme un endroit où les gens viennent travailler ensemble. Donc du coup, si on fait cette somme, vous êtes une trentaine de personnes à travailler ensemble sur une diversité de sujets.
Tout à fait, oui.
Tu as commencé, Benjamin, à décrire un petit peu quelle était finalement l'ambition du Media Lab de Sciences Po, pourquoi il s'est formé. Puis on pourrait peut-être commencer à s'intéresser à quelles sont les missions que vous vous donnez, l'orientation de vos recherches. Alors sur le site, on peut lire que le Media Lab de Sciences Po a vocation à interroger la place prise par le numérique dans nos sociétés, qui paraît effectivement être un vaste programme et puis de plus en plus impérieux, même en termes de questions. J'aurais une première question générale, c'est quoi pour vous ce numérique auquel il est fait référence? Parce que c'est un terme qui semble très largement repris dans le langage courant, et pourtant je trouve qu'il n'est pas toujours évident, loin s'en faut, à bien comprendre les limites. Et forcément, entre les différentes personnes qui vont en parler, dans les différents contextes, on ne va pas forcément entendre la même chose. Alors, est-ce qu'on parle strictement pour vous des technologies numériques? Est-ce qu'on parle de ce qui a trait aux données? Est-ce qu'on parle vraiment d'un phénomène social global? Voilà, vous qui travaillez sur cette question, quelle lecture vous avez de ce mot? C'est quoi le numérique? Béatrice.
Alors, c'est vrai que sur le site du Media Lab, on le définit probablement pas très bien, mais c'est aussi parce qu'on se laisse la liberté de voir dans le numérique beaucoup de choses et aussi de laisser beaucoup de gens le définir à leur guise. Je pense que pour une très grosse partie des travaux du laboratoire, le numérique, en fait, étudier le numérique, ça veut avant tout dire étudier les pratiques sociales sur Internet, et ça va passer largement par une étude des traces que laissent les individus ou les organisations sur Internet. Mais, comme le disait tout à l'heure Benjamin, ça veut dire aussi utiliser des outils numériques ou des méthodes numériques pour étudier la société. Je peux donner quelques exemples. Je pense par exemple aux travaux d'un doctorant qui s'appelle Jean-Baptiste Garoc au labo, qui s'intéresse aux capteurs de la qualité de l'air, qui voit comment ces capteurs provoquent des mobilisations sociales auprès de différents groupes de citoyens qui cherchent en fait à acquérir des connaissances grâce à ces capteurs. Ou dans les méthodes numériques, il y a aussi, par exemple, des algorithmes de traitement automatique du langage. Et donc là, je pense à d'autres travaux, par exemple ceux de Rubin Chen, qui est un autre doctorant du laboratoire, et qui utilise ce genre de techniques de traitement du langage pour analyser l'évolution du journalisme politique, par exemple. Donc en fait, c'est extrêmement vaste. Et on essaye aussi, en tant qu'ingénieur au laboratoire, d'être aussi diversifié que possible dans nos compétences, de façon à pouvoir aider les gens au maximum sur leurs différents types d'approches.
Entendu. Mais c'est intéressant cette idée de se laisser une marge de manœuvre, parce qu'on voit tout l'intérêt dans un cadre de recherche. Par contre, quand c'est dans des discours politiques où justement on pose un terme qui est très large, on voit comment cette idée de se laisser des marges de manœuvre va avoir un sens aussi différent. Tu voulais réagir sur ces questions ? Ok. Alors du coup, j'aimerais aussi qu'on se penche sur l'éthique qui va animer, qui va guider un peu les travaux du Media Lab. Voilà, quand on parcourt le site, on voit qu'il y a une importance donnée au libre accès à la connaissance, à la production de savoirs communs, à la science ouverte, et en particulier aussi au logiciel libre, hein, parce que j'évoquais en introduction que le Media Lab avait adhéré à l'April. Déjà, peut-être commencer par ça. Quel a été le processus de cette décision et pourquoi finalement adhérer à l'April ?
Alors, en fait, moi, je suis assez proche de l'April depuis assez longtemps et je suis adhérent depuis probablement 10 ans, quelque chose comme ça, à titre personnel. Et pour autant, je ne m'étais jamais posé la question. Et je me suis senti un peu dépourvu quand, en fait, lors d'une présentation d'un collègue, un collègue qui présentait la production logicielle du Media Lab auprès des ateliers Blue Hats du gouvernement, qui sont des ateliers dans lesquels des diverses organisations présentent un peu ce qu'ils font.
Je vais me préciser, plus que gouvernement, il y a un pôle logiciel libre qui est animé par Bastien Guéry, voilà, qui est un vrai libriste et qui essaie de faire bouger les choses en interne. Donc, pour aussi remettre les honneurs là où il
faut. Tout à fait. Et donc, lors de cet atelier, Guillaume Plic, donc un collègue, présentait ses outils et quelqu'un demande: mais du coup, est-ce que vous avez adhéré à l'April ? Et je me suis dit, oui, c'est pas bête en fait. Pourquoi est-ce que c'est pas le cas ? Donc du coup, j'ai lancé un peu les démarches. J'ai commencé à regarder quel type d'organisation était membre à titre, comment on appelle ça, personne morale. Et du coup, j'en ai parlé un peu en interne, à la fois au responsable de communication du labo et à la direction du labo, et progressivement, tout le monde était plutôt partant. Donc du coup, si on peut contribuer au moins à notre échelle à l'activité de l'asso, c'est une très bonne chose. Après, au-delà de ça, effectivement, c'est vrai que le fait que le laboratoire a été peuplé lors de ses premières années en majorité par des ingénieurs, en fait, parce que comme on disait tout à l'heure, on est effectivement une trentaine aujourd'hui, dont ça doit être à peu près un quart ingé, un quart design, un quart académique et un quart doctorant, on va dire, bon, même si c'est un résumé très probablement faux. Il fut un temps où je pense qu'on était plus de 50% d'ingé dans le labo, ce qui est vraiment atypique. Et d'ailleurs, moi, je me souviens qu'à cette époque, quand je débarquais dans un autre laboratoire de sciences humaines et que je parlais à l'ingénieur qui travaillait pour 25 chercheurs, généralement, on me regardait genre « Oh là là, je le rêve !» Mais donc, du coup, forcément, il y a eu un peu cette logique aussi qui s'est développée entre ces personnes à la création du labo, qui était « ça nous semble logique de faire du logiciel libre, et ça nous semble logique que ce soit aussi la ligne du labo, de chercher à aller dans cette direction, que ce soit à la fois sur les publis, c'est un peu les débuts du mouvement de l'open access, en tout cas en France, sur le logiciel, donc où c'était déjà plus ou moins le cas, mais également sur les données, puisqu'il y a un mouvement d'ouverture des données de la recherche qui est aussi en train de croître. Et donc du coup, on a inscrit au moment de la transformation du labo en vrai laboratoire, on a du coup dû écrire des statuts, un peu comme une asso d'ailleurs, un laboratoire a des statuts, et on a inscrit dans nos statuts le fait que, alors c'est pas une obligation parce que ça nous paraissait compliqué, mais qu'il y a un très fort encouragement du laboratoire à ce que l'ensemble des productions du laboratoire s'inscrivent dans des licences libres, que ce soit du coup pour des données, des publis ou des logiciels.
Et là, du coup, c'est pas 100%, toutes vos publications ne sont pas forcément...
Alors, logiciel, si. Mais données, il y a énormément de données qu'on ne peut pas tout simplement republier pour des raisons légales. On collecte énormément de données sur des réseaux sociaux, par exemple, et on n'a pas le droit de rediffuser les données qu'on collecterait, par exemple, sur Twitter. On a le droit juste de rediffuser la liste des identifiants des tweets que l'on a collectés. C'est ce que permet légalement, déjà, Twitter eux-mêmes. Et par ailleurs, en termes de protection de la vie privée, ce sont des données qu'on n'a pas le droit de rediffuser. Et de la même manière, sur les publis, je ne vais pas aujourd'hui refaire toute la vie du monde de la publication scientifique, mais malheureusement énormément d'éditeurs, de revues dans lesquelles on peut publier donc des revues. Donc je ne sais pas si tout le monde sait comment marche la recherche, mais le fonctionnement de la recherche, c'est que quand on veut soumettre un travail, on va le proposer à une publication, donc c'est généralement un article qui fait entre 5 et 50 pages, et qui va être relu par un comité de lecture de la revue, c'est-à-dire que d'autres chercheurs de la discipline vont relire le document et faire des suggestions, des remarques, dire que ça leur va pas du tout. Donc c'est vraiment un travail de reviewing, et ensuite ces publications sont acceptées. Et la plupart des revues sont payantes et interdisent le libre accès. C'est seulement quelque chose de très récent qu'on puisse publier en open access un certain nombre de papiers. Donc du coup, on essaye, on encourage et on essaye autant que possible de le faire, mais malheureusement, c'est pas toujours possible.
Oui, puis il y a des enjeux économiques très importants. C'est derrière, on en avait un peu parlé justement dans cette émission sur l'enjeu politique de la science ouverte. Et il y a des intérêts économiques forts et bon, qui freinent aussi du coup cette démarche aussi. Béatrice, tu souhaitais réagir ?
Non, simplement dire que parfois la logique de publication est pas 100% aux mains même des auteurs des publiés en question, parce que en fait ils vont publier là où ils pensent que leur article a le plus de chances d'être accepté, et dans des revues si possible aussi prestigieuses que possible, parce que aussi ont des logiques de recrutement, carrière, etc. Bon, on va pas non plus refaire l'historique de la précarité dans la recherche, mais elle est réelle. Et donc les chercheurs qui publient aussi dans les revues, et sont un peu pieds et poings liés face aux conditions qui sont faites de publication.
Bien sûr, et il s'agit jamais, je trouve, c'est même important de faire cette distinction, de ne pas juger moralement vis-à-vis des personnes qui ont des comportements individuels. On fait, je pense, que ce soit par exemple pour le logiciel libre ou pour beaucoup d'autres démarches plus ou moins militantes, on fait au mieux dans un contexte donné. Et le problème, il est systémique, quoi. Il est jamais dans un comportement individuel. Et effectivement, on imagine bien pour des chercheurs, des chercheuses qui doivent bien aussi, qui souhaiteraient continuer à faire des recherches, il y a des rapports de force qui les dépassent aussi, quoi. Donc, on fait tous au mieux. Pardon pour cette parenthèse. Peut-être déjà commencer aussi à comprendre comment vous fonctionnez. Alors, tu disais qu'a priori, au Media Lab, vous êtes donc une quinzaine d'ingénieurs, ce qui semble du coup 15 fois plus que...
Pas une quinzaine, plutôt une petite dizaine.
Bon. Ce qui serait du coup 10 fois plus, on va dire, par rapport à ton constat dans d'autres laboratoires. Du coup, j'imagine que ça change profondément aussi la dynamique de recherche et de fonctionnement. Vous parlez de pluridisciplinaire, vous me disiez qu'il y avait une équipe de designers, d'ingénieurs, d'académies plus traditionnelles. Et du coup, comment cela s'agence ? J'imagine qu'il y a un projet, peut-être que ça part d'un académique, peut-être que ça part plutôt d'une ingénieure. Comment s'initie un projet et comment fonctionne cette interdisciplinarité ?
Déjà, l'interdisciplinarité, elle est étrangement, mais c'est, je pense, lié aussi au profil du laboratoire. Elle est individuelle, souvent. Il y a beaucoup de gens qui travaillent au Media Lab qui sont pluridisciplinaires. Typiquement, Béatrice a une thèse en informatique, et pour autant, elle est côté ingénieur, elle n'est pas côté académique. Mais donc, du coup, elle a totalement des compétences de prof. Enfin, pas de... Si, d'ailleurs, tu donnes des cours aussi.
Oui, je donne aussi des cours, aussi.
À côté, on a un collègue qui s'appelle Robin Demoura, qui est à la fois une thèse en design, conçoit des projets de recherche et de design, et qui code et développe des interfaces et crée des outils. Et il y a vraiment ce truc, même parmi les académiques. On a par exemple Jean-Philippe Cointet, qui est un chercheur qui a une formation à la base d'ingénieur, je crois, qui a une thèse en sociologie. Et qui fait de l'analyse de langage et qui crée des algorithmes très compliqués pour exploiter de l'analyse du langage dans des études de sociologie, par exemple. Enfin, on a vraiment donc des profils assez divers et pluricompétents. Et je pense que ça joue beaucoup sur l'interdisciplinarité des projets en eux-mêmes. Mais donc du coup, quand un projet se crée, c'est avant tout, je dirais, un désir, une idée, une envie de creuser une question. Et ensuite, c'est plus les méthodes qui vont être employées, qui vont nous amener au sein de l'équipe technique, donc ce que j'appelle l'équipe technique, c'est effectivement les ingés, à accompagner un projet. Et quand on accompagne un projet, ça peut aller vers du développement ponctuel qui va être spécifique à un projet, mais on essaie autant que possible d'éviter de faire ça. Et ce qui fait que du coup, l'équipe technique, d'une certaine manière, a un agenda propre au sein du laboratoire qui consiste à chercher à faire des outils qui servent au plus grand nombre et pas seulement à un projet de recherche en particulier. J'aime bien dire de manière provocatrice qu'on est opportuniste. Dans le sens où s'il y a un besoin et que ce besoin on pense qu'on peut le déployer pour d'autres, répondre à ce besoin pour d'autres, on va chercher à s'investir là-dessus. Par exemple, typiquement en ce moment, on a quelque chose qu'on fait assez souvent à la fois quand on travaille sur du machine learning, enfin avec des outils de machine learning, ou tout simplement quand on collecte un certain nombre de données, c'est qu'on a besoin de faire du tri et de la catégorisation. Donc on a par exemple un ensemble de tweets. Et on a besoin, parmi cet ensemble de tweets, de dire, en fait, ceux-là, on veut les garder, ceux-là, on veut pas les garder. Et par ailleurs, ceux-là, ils sont en français, ceux-là, ils sont, je sais pas, je dis un exemple. Et donc, du coup, on a un besoin, et c'est un besoin qui revient de manière assez régulière. Et là, j'ai parlé de tweets, mais ça pourrait s'appliquer à plein d'autres choses. Et du coup, ce besoin de pouvoir trier, catégoriser, on a le sentiment dans l'équipe technique que c'est quelque chose auquel on peut répondre par un outil numérique. Et donc, du coup, on a une opportunité de développer un outil qui va servir spécifiquement sur le projet en particulier, mais qu'on va pouvoir essayer de déployer dans plein d'autres cas. Donc du coup, on a déjà un outil comme ça qui s'appelle Catwalk, et en ce moment, du coup, on est en train de développer une nouvelle version qui permettrait de faire beaucoup plus de choses avec. Donc voilà, c'est un exemple de projet qui est guidé directement en interne par l'équipe technique, sans qu'il y ait véritablement une demande du laboratoire et de chercheurs en particulier de faire ça, mais on sait que ça va servir à beaucoup d'entre eux.
Ok.
Donc voilà, c'est un exemple de comment est-ce qu'on s'amène à développer des outils. Et au-delà de ça, au sein du labo, on va de la même manière. Ça, c'est un outil vraiment final, mais on va faire également on va essayer de développer des librairies, donc ce qu'on appelle des librairies logicielles. Je ne sais pas si vos auditeurs sont familiers avec avec ce concept.
Partons du principe que tout le monde ne l'est pas forcément. Ouais. Donc ça
mais donc, ce qu'on appelle une librairie en informatique, c'est une brique. En fait, c'est comme si on avait des Lego et on a les briques rouges et les briques carrées et les briques rondes qui vont permettre de construire des bâtiments particuliers. Et donc c'est pareil en informatique, on a des briques qui vont être nécessaires pour faire, par exemple, de l'analyse de texte ou pour faire de la collecte de données. Et donc, ces briques, on va les construire et on va les remettre en logiciel libre pour qu'elles puissent servir à la fois à nos projets, mais potentiellement aussi à d'autres projets. Et je me rappellerai toujours de cette histoire on a un collègue qui a développé une librairie comme ça et qui un jour a reçu par la poste des tablettes de chocolat qui lui avaient été envoyées par le PDG de WhatsApp qui disait on utilise ta librairie dans notre code et c'est trop bien et je voulais te remercier. et voilà, donc c'est un exemple de logiciel libre réutilisé comme ça parce que on essaie de faire des choses qui puissent servir à d'autres.
Ça me paraît très bien. Béatrice ?
Je voulais ajouter qu'en plus de notre activité de développement logiciel, je pense qu'on a aussi un rôle à jouer dans la recherche au laboratoire, dans, comment dire, une forme de conseil donné aux chercheurs sur la façon d'utiliser nos outils, même pas que nos outils d'ailleurs, d'une manière générale, des méthodes numériques et informatiques dans leurs travaux de recherche. Parce que c'est vrai que quand on a une formation en informatique notamment, on est mieux à même de comprendre comment fonctionnent les algorithmes ou les outils qui sont utilisés et de mettre en garde parfois contre une utilisation qui ou une interprétation qui serait pas tout à fait correcte. Je peux donner un exemple qu'on donne assez souvent sur l'analyse de réseau. En analyse de réseau, on dispose maintenant d'un certain nombre d'algorithmes qui permettent assez facilement de visualiser les données de réseau de façon claire pour essayer de regrouper dans l'espace les nœuds d'un réseau qui vont être liés entre elles et écarter les nœuds d'un réseau qui sont moins liés. Et on a aussi des outils qui permettent de calculer des communautés qui seraient en fait les éléments d'un réseau qui seraient les plus connectés entre eux. Le problème, c'est que une fois qu'on a une très jolie visualisation avec des communautés, des couleurs, etc., c'est un petit peu facile ensuite de passer directement à une interprétation un peu trompeuse qui irait dire bon bah voilà, tous ces gens-là qu'on a représentés dans le réseau, ils font partie de cette communauté-là. Et en fait, une partie de notre travail consiste à dire voilà, notre outil permet de visualiser des choses, il permet pas forcément de donner des catégories et toujours d'ajouter une note critique et d'inciter à prendre un pas de recul par rapport à ce que proposent les outils pour pas les utiliser de façon trop directe, j'aurais tendance à dire.
Pour paraphraser ce que tu viens de dire, c'est vrai que j'ai l'impression que souvent les gens de l'équipe technique sont ceux qui vont être le plus prudents vis-à-vis de l'utilisation du numérique. On peut avoir des gens qui sont totalement acculturés de méthodes numériques et qui vont arriver et nous dire je veux faire ça. Il est où le bouton magique sur lequel je vais appuyer et ça va produire le résultat. C'est un peu ce. Et nous, on est toujours là, au contraire, et c'est aussi un peu un héritage de Bruno Latour, c'est de revenir au réel. C'est pas parce qu'on a collecté toutes ces données que il faut du coup en tirer une analyse statistique et donc c'est sûr, c'est à 90%. Enfin, c'est, je sais pas, un exemple tout bête, c'est, je sais, il y a des études régulières qui collectent plein de données sur Twitter et à partir de ça, on établissent une évaluation du bonheur moyen des gens. C'est des choses. Enfin, on a tendance au Media Lab à être beaucoup plus prudent vis-à-vis de ce genre d'approche et plus à chercher à toujours remettre en question des résultats qu'on pourrait obtenir de manière automatisée et essayer de revenir vraiment aux données et de faire un travail un peu qualitatif, d'aller regarder ce que c'est vraiment que le terrain et ce que sont vraiment les acteurs qu'on étudie.
C'est intéressant et j'aime bien cette image du bouton magique parce que je trouve que justement l'informatique a ce côté, enfin les technologies ont un côté magique et dont il faut se méfier parce que en fait il y a la magie, c'est la science qu'on n'explique pas encore quelque part. Et se retrouver un pouvoir politique, un pouvoir collectif sur ces outils, c'est justement comprendre qu'en fait rien n'est neutre, il y a une raison d'être derrière les choses et il y a un savoir qu'on peut avoir. Bref. Je vous propose, on va faire une pause musicale et après cette pause, on pourra peut-être prendre des exemples un peu plus concrets d'outils sur lesquels vous travaillez dans le cadre de projets un peu plus concrets parce que vous avez évoqué beaucoup de choses, les nœuds informatiques, le machine learning, pourquoi finalement aller chercher toutes ces données sur Twitter. Vous avez commencé à esquisser un petit peu des usages et je pense que ce sera plus clair pour des personnes extérieures de comprendre autour de projets plus précis et on pourra explorer ça après la pause musicale. Et donc, je vous propose d'écouter Hager par Stone from the Sky et on se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Nous venons d'écouter Hager par Stone from the Sky, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous discutons avec Béatrice Mazoyer et Benjamin Octabanou, deux ingénieurs de recherche du Media Lab de Sciences Po, un laboratoire de recherche interdisciplinaire avec une forte éthique libriste. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton chat. Alors avant la pause, on évoquait ce rôle d'accompagnement que peuvent avoir effectivement les ingénieurs au sein de, du Media Lab. Et pendant la pause, tu évoquais, Béatrice, voilà, une initiative que vous avez du coup développée au sein de, du labo.
Oui, oui, tout à fait. Sur ce sujet de l'accompagnement méthodologique, en fait, on a mis en place à Sciences Po un atelier mensuel qui s'appelle le METAT et qui est un atelier de soutien méthodologique ouvert à tous. Donc en fait, c'est sur inscription, il y a un site, si on cherche METAT Sciences Po...
De toute façon, je vous les redemanderai toutes ces références, on a une page web dédiée à l'émission où on met toutes les références qui peuvent être utiles et qui sont...
D'accord.
Donc on mettra celle-ci.
Et qui permet donc à des chercheurs, mais aussi des gens qui ne sont pas chercheurs, c'est vraiment n'importe qui, de venir avec ces problèmes méthodologiques et ensuite on passe une après-midi à essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est vraiment pour les ingénieurs du Media Lab un moment aussi de formation parce qu'en fait on se rend compte face à des nouvelles problématiques d'utilisateurs des connaissances qu'ont les autres ingénieurs du laboratoire et de comment ils règlent ces problématiques-là. C'est aussi comment se servir des outils qu'on développe au laboratoire pour aider les publics. Et puis, d'une manière générale, c'est aussi un moment, je trouve, convivial, où on se retrouve tout d'un coup tous dans la même pièce pendant une après-midi, et ça, c'est aussi un très bon moment.
Oui, et puis c'est l'occasion de se confronter à des questions de recherche qui ne nous seraient pas venues autrement, vraiment de toute nature, et d'ailleurs, effectivement, de recherche ou autre, parce qu'on peut avoir des publics vraiment très différents à cette occasion.
C'est quand la prochaine?
C'est le deuxième mardi après-midi de chaque mois. Donc, du coup, ça doit être le 8 novembre, ouais, le prochain. Ouais.
D'accord. En plus, il n'y aura pas d'émission inédite le 8 novembre. Donc, si vraiment vous êtes intéressé à aller, qu'un direct libre à vous ne soit pas le frein. Ouais. Et Benjamin, tu me disais qu'il y avait un autre événement auquel vous participez aussi, au FOSDEM.
Oui, pour les gens qui connaissent un peu le logiciel libre, le FOSDEM, c'est la conférence européenne annuelle à Bruxelles, qui est à l'Université libre de Bruxelles, qui est un week-end de deux jours pendant lequel... des développeurs du monde entier de logiciels libres les plus divers et variés se rassemblent et se présentent les dernières avancées, les derniers développements dans tous les domaines, qui est une conférence qui est très conviviale également, qui est un peu auto-organisée et qui est un événement très sympa. Et du coup, c'est aussi un peu le moment team building de l'équipe technique du Media Lab depuis, je pense, 5 ou 6 ans, et qui nous a amené d'ailleurs très vite à co-organiser une dev room, c'est-à-dire il y a différentes tracks dans lesquelles sont présentés les sujets. Donc il y a la salle Python, c'est un langage informatique, il y a la salle Java, un autre langage informatique, il y a des salles comme ça dédiées à des sujets, il y a une salle visualisation de réseau, et donc on a participé à la création d'une salle tools, open tools for open research, et donc dans lequel effectivement sont présentés des outils et pas que research and journalism, c'est là que sont présentés justement des outils qui sont déployés un peu dans la même veine que ce qu'on fait, et parce qu'on n'est pas les seuls, hein, encore heureux. Il y a des laboratoires du même acabit que le Media Lab, on trouve des choses assez semblables dans différents pays. Et donc voilà, c'est l'occasion d'échanger et de croiser ces personnes.
Alors du coup, bon, on va revenir un peu en arrière, mais ça m'évoque une question que je trouve intéressante, c'est-à-dire, sinon je la poserai pas. Du coup, vous n'êtes pas une exception en termes de puisque au niveau international, il y a d'autres labos qui vont partager un peu cette structure, la même structuration que le Media Lab. Vous fonctionnez internationalement, vous avez une forme de collectif ou des échanges réguliers avec ces autres structures?
Alors il y a le Public Data Lab qui existe, qui est en fait une coalition de projets assez semblables, Mais je dois avouer que c'est créé avant le Covid et j'ai l'impression qu'avec le Covid, ça a un peu périclité. En tout cas, c'est plus très, très actif, mais c'est des gens, des partenaires réguliers, en tout cas, avec qui on continue à échanger régulièrement. Ouais.
Oui, non, moi, je connais pas bien encore toute la galaxie des laboratoires européens et internationaux qui font des choses similaires à nous.
Non, mais on peut citer le Tant Lab, on peut citer DMI en Hollande, Tant Lab à Copenhague, on peut citer Density Design à Milan.
Mais vous n'avez pas des échanges de travaux réguliers, c'est plus voilà, dans les cas comme
plus
des événements.
Plus ça va être lors d'événements ou éventuellement. À une époque, il y avait plusieurs projets de recherche internationaux qui se sont tous conclus récemment.
D'ailleurs, ça me donne une transition parfaite pour la suite de notre échange parce que je vous avais, voilà, comme on disait avant la pause, pour avoir une vision un peu plus précise et claire de ce que vous développez comme outil, pourquoi vous les développez, à quelle fin, etc. De prendre des exemples concrets. Et un de ces outils que vous m'avez proposé de présenter qui est Minet. Voilà. Je vois, voilà, quand on parcourt sur le site, il y a écrit qu'il s'inscrit dans une activité, quelle circulation de l'information dans l'espace public numérique. Vous avez peut-être développé là-dessus. Et je vois que, voilà, que le projet a été mené conjointement avec l'équipe du Berkham Klein Center à Harvard et du MIT à Cambridge. Donc finalement aussi peut-être les. Ah.
Alors c'est pas l'outil Minet, c'est un projet de recherche qui a été qui a été fait conjointement effectivement avec le Berkham. C'est le projet polarisation. Mais du coup, je vais peut-être laisser la parole à Béatrice sur Minet.
Oui,
on dit Minet.
Alors Minet, voilà. Nous on dit Minet, mais c'est vrai que
quand il a créé, il y avait un peu une blague sur Bernard Minet aussi, je dois avouer.
Non, et puis enfin, c'est vrai que je vois souvent des gens venir me voir en me disant oui, j'aimerais que tu montes un truc sur Minet, donc j'ai pris l'habitude aussi que tout me va. Donc Minet, en fait, c'est un petit peu notre outil couteau suisse au Media Lab pour télécharger des données du web d'une manière générale. En fait, c'est un outil en ligne de commande. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent bien la ligne de commande.
Pas besoin c'est une manière d'interagir avec un ordinateur.
Voilà, c'est une manière d'interagir avec un ordinateur. C'est vrai que pour des développeurs d'outils, c'est un moyen, disons, relativement simple de mettre un certain nombre de commandes accessibles sans forcément avoir à développer une interface utilisateur très complexe avec des boutons, des images, etc. Là, l'idée, c'est plutôt de dire en quelques mots ce qu'on veut. Donc, on va taper Minet. Ensuite, imaginons qu'on veuille télécharger une liste d'URL qu'on aura déjà au préalable constituée. Par exemple, je ne sais pas, des images. On va utiliser Minet Fetch. Et puis ensuite, on va donner l'adresse du fichier où on a stocké la liste des images. Et Minet lance le téléchargement avec un certain nombre de paramètres pour éviter de trop souvent aller taper sur le même site internet et donc il va faire des pauses entre les moments, enfin voilà. Donc c'est il y a aussi Minet Twitter ou Minet YouTube qui permettent d'aller télécharger des commentaires sur YouTube ou télécharger des tweets. J'ai même plus en tête toutes les commandes qui sont associées à Minet mais qui en fait sont tout ce qu'on a pu rassembler d'outils que les membres du laboratoire avaient besoin assez régulièrement d'utiliser pour leurs collectes de données.
Donc c'est parti d'un besoin exprimé par la recherche académique, on a besoin de collecter cette typologie de données-là, et vous avez donc développé un outil pour répondre à ces besoins-là ?
Oui, disons que souvent je vais parler plus spécifiquement sur les réseaux sociaux parce qu'on a, enfin, on a quand même beaucoup de chercheurs qui s'intéressent aux réseaux sociaux et comment les gens s'expriment en ligne sur ces réseaux. Souvent, il y a des techniques qui permettent d'accéder aux données sur les réseaux, donc notamment ce qu'on appelle des API, des Application Programming Interface, qui sont en fait une forme de façade proposée par une organisation ou à laquelle on va pouvoir toquer pour dire bonjour, j'aimerais avoir accès à tel type de données. Et souvent en fait ces API ne donnent pas accès à tant de choses que ça, et puis c'est pas si simple non plus de bien comprendre la documentation de ces API pour savoir quel type d'appel il faut faire, à quelle fréquence pour obtenir tel type de données. Donc En fait, il y a quand même un savoir qui est de plus en plus développé parmi les chercheurs pour s'adresser à ces API. Beaucoup savent maintenant programmer un peu et faire la requête qui va être nécessaire pour télécharger des données. Mais en fait, ça leur prend beaucoup de temps. Et puis, ils vont parfois se retrouver bloqués bêtement parce que bon, ils ont réussi à obtenir leur premier paquet de données, mais le suivant, ils savent pas comment faire pour passer la deuxième page. Enfin, des choses très très simples, mais qui en fait peuvent être un petit peu généralisées et faire en sorte que ils aient plus à se poser ce type de questions. En fait, ils tapent juste leur commande, ils ont leur fichier résultat et tout ça se passe beaucoup mieux.
En fait, MyNet agrège toute notre expérience. C'est-à-dire que nous, on a fait souvent des choses par rapport à des demandes. Et du coup, on s'est pris des murs, comme toujours quand on développe. C'est-à-dire qu'on essaie de faire un truc, ça marche pas. Et puis on finit par trouver la solution. Et en fait, ça, c'est une expérience qui est précieuse. Et s'il faut le recoder à chaque fois, c'est une perte de temps. Donc du coup, on dans ces cas-là, on essaie de l'intégrer sous la forme de quelque chose de générique qui pourra resservir. Et donc MyNet accueille toutes ces choses. Dès qu'il s'agit de collecter des données, on met dans MyNet.
D'accord.
En ce moment, on est en train d'ajouter Instagram et TikTok. Enfin voilà.
Donc si je comprends bien, en fait, la démarche, c'est-à-dire que c'est pas forcément sur un projet précis, on vient vous chercher et vous développer un outil à cette occasion. D'ailleurs, c'est ce que tu évoquais un peu plus tôt dans l'émission. C'est en tant que voilà, vous êtes un groupe d'ingénieurs et vous constatez finalement des demandes similaires et vous dites là il est pertinent peut-être pour répondre à ces on constate un besoin récurrent donc on va développer un nouvel outil puisqu'il n'existe pas encore par ailleurs. D'accord.
C'est exactement ça, si ce n'est que parfois ce genre des outils semblables existent par ailleurs mais que après on n'a pas forcément toujours le temps d'aller tous les tester, tous les chercher et que des fois réinventer la roue ça marche quand même même si en fait c'est pas réinventer la roue parce que c'est plus qu'on va vouloir le faire avec des angles qui seront toujours un peu plus spécifiques et on a aussi cette approche recherche qui consiste, alors je vais me faire taper dessus sur les doigts par la CNIL mais qui consiste à prendre un maximum d'informations d'un coup parce que souvent en fait on va trouver de l'information importante dans quelque chose qu'on n'aura pas imaginé d'avance. Et c'est important de pouvoir avoir, collecter un maximum et ensuite traiter, voire analyser.
D'accord. Alors un autre outil peut-être que vous pourriez nous présenter pour qu'on ait une vision un peu plus large de ce que vous pouvez produire.
Oui, je peux vous parler de Hive, alors qui s'écrit HIF, mais qu'on prononce Hive, même si ça n'est pas du tout une prononciation correcte en anglais, qui est HIPHE. C'est un outil qui vise à créer des cartographies du web. Donc, c'est-à-dire à faire une carte de sites web et de comment ces sites sont reliés les uns avec les autres. Donc, on va pouvoir comme ça, Béatrice parlait tout à l'heure de visualisation de réseau. Donc, c'est ça, c'est-à-dire ça donne un réseau donc de liens entre ces différents sites et qui vont être du coup plus ou moins proches suivant que, sur la carte, suivant qu'ils sont très liés ensemble ou pas. Typiquement, on a fait une carte de tous les médias français à un moment. Bah, c'est pas très intéressant parce que ça fait une grosse boule de nœuds où tout est lié, parce qu'ils se citent tous les uns les autres. Mais par exemple, on a pu faire une carte de le web pro-avortement et le web anti-avortement. Et là, ça donne des communautés assez claires avec des sous-communautés de ceux qui sont plutôt pour la mise en avant des solutions, pour d'autres qui sont plutôt sur le combat contre les anti-avortements, etc. Donc comme ça, c'est un outil donc qui est un outil clé en main, encore une fois, qui a vocation à pas être magique. Donc c'est ce qu'on appelle un crawler. Un crawler, c'est un robot qu'on envoie sur le web et qui va fouiller les pages web. Et cliquer, en fait, c'est comme si on envoyait un robot cliquer tout seul, donc de manière maladive, aller cliquer sur tous les liens qu'il va trouver dans une page. Et donc c'est ça ce crawler. Il y a des crawlers qui existaient déjà dans les sciences humaines, mais l'idée souvent, c'est que justement, c'était un peu magique. On lui donnait un point de départ et puis il cliquait partout. Et du coup, il arrivait comme ça avec une grosse carte, mais dans laquelle il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément très intéressantes. Parce que, bah, en fait, quand on clique partout sur le web, où est-ce qu'on arrive inévitablement? Sur Google, sur YouTube, sur Wikipédia, qui sont des sites un peu attractifs. Enfin, attracteur, parce qu'il y a des liens partout vers eux. Et donc l'idée dans Hive, c'est justement de faire ça, mais de manière guidée par le chercheur. Et donc c'est-à-dire que c'est le chercheur qui à tout instant va dire, ce site-là, il m'intéresse, je vais le fouiller. Mais tu vas pas cliquer sur les liens dès que tu sors du site. Par contre, il va retourner la liste de tous les sites qui sont les plus cités par ceux qu'on a déjà fouillés. Et du coup, comme ça, on va voir au début apparaître effectivement Google, YouTube, Wikipédia. Ceux-là, on dit j'en veux pas. Par contre, ceux qui apparaissent après, potentiellement, ils sont intéressants et on va aller les sélectionner. Et progressivement, comme ça, de manière itérative, créer une carte. Alors, il y a toujours un problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Grosse question des chercheurs. Et il y a pas, on pourrait continuer de manière infinie tellement
c'est
le web.
C'est le métier de chercheur et l'expérience.
Voilà, ouais. C'est après des choix. Et c'est vraiment l'idée, c'est qu'il y a un choix humain. Que c'est pas entièrement automatisé, c'est un outil automatisé qui permet de faire plein de choses, mais qui doit être guidé par l'utilisateur.
D'accord. Donc si je comprends bien, pour résumer, ces outils, les outils que vous développez servent à, en fait, face à l'immensité des données qui existent, à la complexité des réseaux, etc., de permettre à des chercheurs en sciences sociales, par exemple, qui ont fait des recherches sur les mouvements politiques autour de l'avortement, d'avoir accès à un corpus de données plus pertinent, plus restreint, plus lisible, en fait, pour répondre à leurs besoins de recherche.
En l'occurrence, oui, c'est un peu ça.
D'accord. Je vois que quand même le temps avance et on avait prévu aussi, vous vouliez me parler un peu de thèmes sur lesquels vous marchez, sur lesquels vous travaillez plutôt. Alors, vous m'avez évoqué ce qu'on appelle les fake news. Alors ça aussi, on pourrait faire plusieurs émissions sur cette idée de fausses informations, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui s'attachent autour. Mais bon, en tout cas, il y a une vraie thématique dessus, sur l'analyse d'images. Je pense que ça peut être intéressant si vous voulez choisir une de ces thématiques pour nous donner peut-être une autre approche du Media Lab, du travail du Media Lab.
Je peux Béatrice, parler de l'analyse d'image éventuellement.
C'est très intéressant. Hein.
moi j'ai fait ma thèse, alors certes une thèse en informatique, mais qui était quand même assez multidisciplinaire aussi, puisque j'étudiais la circulation de l'information entre les réseaux sociaux et les médias traditionnels. Et au cours de ma thèse, j'ai fait beaucoup de traitements automatiques du texte. Et c'est vrai qu'à la fin de ma thèse, j'avais un petit peu une frustration de me dire, bon, l'information, elle circule par le texte, mais enfin, soyons honnêtes, j'ai quand même manqué beaucoup de choses parce que l'image, c'est un rôle important aussi dans la circulation de l'information. Mais c'est beaucoup plus difficile à qualifier. Autant, on sait à peu près dire, OK, voici deux textes qui parlent de la même chose. Autant, on est encore assez balbutiant pour dire, voici deux images qui parlent de la même chose. Alors, on sait dire maintenant avec les outils de machine learning, OK, voici deux images du même objet. Deux images de chat, ça va. On sait à peu près dire que c'est la même chose. Par contre, on a plus de difficultés, soit pour dire voici deux images qui représentent la même chose, mais d'un point de vue plus conceptuel. Et notamment si on pense au même, par exemple, en fait c'est infini parce qu'avec la même image, on peut représenter plein de concepts et plein d'idées. Et puis
même, on va préciser, c'est pas ME accent circonflexe, ME c'est une image. Je pense que ça peut être intéressant à définir, hein, même pour les personnes qui sont pas forcément. C'est pas forcément. Je pense que dans nos milieux, on a l'habitude d'entendre ce terme, et c'est une évidence. Ça l'est pas forcément pour tout le monde qui nous écoute.
C'est vrai. Alors j'ai pas réfléchi à l'avance à comment définir un même.
Je suis en train d'y penser, mais c'est pas simple. Je pense à définir. Ouais.
Pour moi, ce serait une image, justement, qui va être repartagée et repartagée au point de devenir, entre guillemets, une culture commune pour une certaine communauté, et qu'on va réutiliser. Alors souvent, en faisant des petites modifications, on va probablement modifier soit le texte, soit mettre en parallèle deux images, mais qui sont peut-être pas exactement les mêmes, pour justement l'utiliser au gré des circonstances pour lui faire dire des choses différentes.
Un exemple connu assez récent, c'est le couple dont le garçon se retourne pour regarder une autre fille et dont la fille le regarde outré, et donc sur lesquels les gens ont collé, je sais plus si c'est un iPod et du logiciel libre par exemple.
Oui, détourne le regard. Moi, je pensais au chien assis dans une pièce enflammée qui dit tout va bien, effectivement. Ouais. Ça peut être détourné. Mais bravo Béatrice, parce que je trouve que tu as de manière très claire défini un concept qui n'est pas forcément si simple à définir. Ouais.
Voilà. Mais donc avec un chercheur de l'INA qui s'appelle Nicolas Hervé. Donc l'INA, c'est l'Institut National de l'Audiovisuel. C'est là que j'ai fait ma thèse, en partie, c'est plusieurs institutions. On cherche à développer un outil qui permette de regrouper ensemble les images qui partagent le même morceau d'image. Donc ça paraît relativement simple comme ça, parce qu'après tout, s'il y a la même chose sur une image, ça devrait être facile de faire le lien. Mais en réalité, une fois qu'on se pose les bonnes questions, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère qu'un morceau d'image est suffisamment complet pour qu'on fasse le lien entre deux images, on se rend compte que c'est une thématique un petit peu complexe. Et l'idée, là encore, c'est d'essayer de guider l'utilisateur vers des groupes d'images qui aient du sens. Donc, évidemment, on ne veut pas que toutes les images où il y ait du texte, par exemple, se retrouvent groupées ensemble parce qu'elles contiennent la lettre A, j'en sais rien. Donc, en fait, c'est aussi du essai et erreur pour essayer de mettre en point les bonnes heuristiques, les bonnes règles qui vont permettre ensuite à nos utilisateurs de trouver, voilà, toutes les images qui ont effectivement bien partagé le même mème. Et donc, je travaille là-dessus en ce moment.
Notamment. D'accord, ça a l'air passionnant en tout cas. On arrive malheureusement à la fin de notre échange. Pour conclure, j'aimerais vous demander à vous deux, en deux minutes, voire une minute si vous y arrivez, mais j'avais dit deux minutes, donc deux minutes chacune, de nous dire quels sont pour vous là, les points essentiels à retenir de notre échange. Béatrice, puisque tu avais la parole.
Alors, en une minute, je pense que de manière générale, avec le développement de nouveaux outils, on permet le développement de nouvelles méthodes de recherche en sciences sociales. C'est ce qu'on cherche à faire au Media Lab. Et c'est aussi, enfin, en tout cas j'espère, toute une nouvelle génération de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants qui sont formés à une nouvelle forme de culture numérique.
Et moi je dirais que c'est avant tout c'est un labo atypique qui fait des sciences sociales, mais du coup avec des nouvelles méthodes. Et d'ailleurs on parle beaucoup des méthodes numériques, mais on n'a pas eu le temps de développer sur le design. Il y a aussi une forte approche sur le design d'événements, le design d'ateliers, le design de la recherche un peu participative et qui suppose en fait une réflexion un peu différente. Et donc du coup oui, je dirais que c'est un labo atypique pour les sciences sociales qui produit des logiciels open source, libres, et qui vise du coup à étudier la société et le rôle du numérique dans la société, que ce soit avec ou sans des méthodes numériques.
Super. Eh bien, écoutez, donc Béatrice Mazoyer et Benjamin Octabanou, deux ingénieurs de recherche du Media Lab de Sciences Po, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de venir discuter avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir.
Merci de l'avoir fait l'invitation.
Ouais. Et puis peut-être qu'on pourra faire d'autres sujets sur le design. Il y a encore beaucoup à dire. Un grand merci. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci.
Merci.